Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver pour ce dernier Culture Média de la semaine. Merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Les audiences sont tombées mercredi et je suis toujours encore un peu esbabouli, comme disait ma grand-mère en Provence. Merci également pour vos messages sur notre compte Twitter. Je vais le redonner, @E1 Culture Média, la lettre E, le chiffre 1, culture au singulier, média au pluriel. Aujourd'hui encore, un gros sommaire. Le journal des médias avec Laurence Foresti, le journal de la culture, une expo sur l'amour et Dragon Ball Z. Notre infomédia, pourquoi les journalistes sont-ils autant détestés? C'est justement le titre d'un documentaire de l'école du journalisme de Lille, l'ESJ. C'est d'autant plus passionnant que ces jeunes se lancent justement dans cette carrière. On verra pourquoi et comment. Le Grenelle des violences conjugales se terminera lundi 25 et le groupe M6 a décidé de se mobiliser contre les violences faites aux femmes avec des programmes dédiés toute cette semaine, notamment un document exceptionnel dimanche soir sur l'affaire Bertrand Cantat avec des images inédites et surréalistes, l'audition de Bertrand Cantat devant ses juges à Vilnius. Sa réalisatrice sera avec nous. J'ai beaucoup parlé, mais pour notre invité culture, trois syllabes suffisent, Julien Clerc. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Bandel, bonjour à tous.
Comme tous les jours, on démarre avec Pierre Desereaux de Pure Média. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
Ce sont les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier?
Hier, c'est TF1 qui s'est très largement classé en tête des audiences. La une qui a dominé de très haut la soirée avec le lancement de la saison 2 de la série policière Balthazar avec Thomas Sisley qui mange beaucoup de blanc d'œuf et Hélène de Pougerolles.
40 par jour, a-t-il dit aux Parisiens.
Et visiblement, ça marche.
Oui.
Alors, on se rappelle que l'année dernière, la saison 1 avait cartonné avec jusqu'à plus de 7 millions de téléspectateurs en comptant le replay. Eh ben, c'est parti pour être la même chose, puisque hier soir, le retour de Balthazar a été suivi par 5 800 000 personnes, 30% de part d'audience. Très joli carton donc pour Balthazar.
Ça en fait du blanc d'œuf.
Ça fait beaucoup de blanc d'œuf. Beaucoup de blanc d'œuf aussi pour France 2, qui a passé une très bonne soirée hier. France 2 est deuxième avec un nouveau numéro d'envoyé spécial, le magazine présenté par Élise Lucet. Des reportages sur la traque des pédophiles et sur les méthodes carcérales au Japon ont été notamment proposés. Une soirée qui a été suivie par 2 500 000 Français, 12,1% du public. Et là, c'est un record de saison depuis la rentrée. France 3 est troisième avec une rediffusion du film américain Imitation Game qui avait décroché l'Oscar 2015 du meilleur scénario adapté. 1 600 000 cinéphiles, 7,6% du public ont suivi ce long métrage avec Benedict Cumberbatch et Keira Knightley. M6 est au pied du podium avec une soirée cinéma là aussi. La 6 qui proposait une rediffusion du blockbuster américain Iron Man 3 avec Robert Downey Jr. 1 500 000 téléspectateurs, 7,8% du public ont passé la soirée avec Tony Stark alias Iron Man, le super-héros Marvel. Du côté des autres chaînes, aucune ne dépasse le million, avec un chiffre toutefois à vous signaler pour W9. W9 qui proposait une soirée spéciale autour de Nathalie Renoux. La chaîne du groupe M6 avait déprogrammé la série Valor pour proposer un doc spécial intitulé « L'incroyable révélation fournirait la fin du mystère Estelle Mouzin ?» point d'interrogation. Un doc programmé alors que Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série, a remis en cause l'alibi de ce dernier. Et bien 400 000 téléspectateurs, 2% du public, ont suivi cette soirée spéciale d'actualité.
Voilà, pour que les gens comprennent pourquoi Thomas Sisley mange du blanc d'œuf, c'est que dans la série Balthazar, il est très très sportif, il est très souvent, explique-t-il, obligé de tourner torse nu et donc il faut avoir des abdos. Sur TMC, je reste au sport, il y avait la Coupe Davis qui a été marquée par l'élimination des Bleus.
Et oui, et on peut dire que la Coupe Davis...
Attention.
Davis.
Wow.
Il l'a répété,
Vous préparez ça depuis hier, non?
J'ai passé la nuit. Et alors oui, face à la Serbie de Novak Djokovic, les Français ont été impuissants. Quant à l'audience, elle n'a pas été au rendez-vous non plus. Entre 11h et 15h, à peine 121 000 fans de la petite balle jaune, 1,5% du public. C'est vraiment une toute petite audience.
Merci beaucoup Pierre, à lundi.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Comme chaque jour avec vous, on fait le tour de l'actu des médias. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin?
Du cinéma sur une chaîne de sport, un duel de chefs sur M6, une association qui se plaint de Danse avec les Stars et une revenante sur la scène des Césars.
Alors Cyril, on commence par une info culture média. Ça se passe du côté de CNews autour de l'émission Face à l'info d'Éric Zemmour.
Vous le savez peut-être, sur les réseaux sociaux, un compte Twitter s'est fait une spécialité d'interpeller publiquement les annonceurs qui font de la pub autour de certains programmes ou sur certaines chaînes. Ce qu'on appelle le name and shame, un procédé qui permet de montrer du doigt une entreprise en l'occurrence. Alors vous imaginez bien que depuis la condamnation d'Éric Zemmour pour incitation à la haine raciale, ce compte concentre ses attaques sur CNews et Paris Première, ce qui commence à agacer les chaînes. Alors nous avons appris hier que Canal+ réfléchit à lancer une procédure judiciaire pour faire cesser ces dénonciations. Les services juridiques de la chaîne ont ciblé le motif de leur plainte. Canal veut lancer une action civile en responsabilité délictuelle pour appel fautif au boycott. Voilà le terme exact. Et Canal ne veut pas y aller seul. La chaîne discute actuellement avec M6 afin que les deux groupes fassent front commun contre Sleeping Giants. C'est le nom de ce compte Twitter qui les a dans le viseur.
Info exclue culture média. Du cinéma sur la chaîne L'Équipe. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril en novembre.
A priori, c'est inattendu. Et pourtant, la chaîne du Canal 21 de la TNT, la chaîne de sport, a décidé d'ouvrir certaines de ses soirées à des films. Trois sont déjà au programme. Pourquoi cette incursion dans le cinéma? C'est la question que nous avons posée à Jérôme Saporito, le patron de la chaîne L'Équipe. Il est interrogé par Alexandre Omar.
C'est une offre complémentaire par rapport à tout ce qu'on peut proposer en matière de sport. On a des talk shows, on a des documentaires, on a des retransmissions sportives. Et il y a un genre qui avait déjà été mis à l'antenne il y a quelques années, mais ça fait 3-4 ans. Le film, les films de sport sont un genre qui ont beaucoup de succès. Il en existe à peu près 150 films qui ont été tournés sur le sport. Et ça nous semblait important d'étirer cette matière sport et d'être le plus complémentaire et le plus large, l'offre la plus large possible.
Je vous le disais, trois films sont déjà annoncés. Coup de tête avec Patrick Devers le 3 décembre, The Wrestler, un film sur l'univers du catch avec Mickey Rourke le 5 décembre. Et le terrifiant À mort l'arbitre, film de 1984 avec Michel Serrault, Eddie Mitchell et Jean-Pierre Mocky.
Film prémonitoire. Bientôt, une nouvelle émission cuisine sur M6.
Chef contre chef, fini les amateurs, fini les prétendants à Top Chef. Cette fois, on sort les gros calibres. C'est de la mise en scène.
Ouais.
Cyril Lignac face à Jean-François Piège, deux chefs à Naples en duel. Et je vous l'avais dit, fini la rigolade. Le principe de cette nouvelle émission est simple. Les deux chefs cuisinent et ce sont eux qui sont jugés. Un défi qui a obligé ces deux chefs étoilés à se remettre au fourneau comme ils ne l'avaient sans doute plus fait depuis longtemps. Écoutez ce qu'en dit Cyril Lignac. Il est au micro de Louise Bernard.
Mon métier, c'est de faire la cuisine tout seul. Aujourd'hui, j'ai des brigades entières, je ne suis pas tout seul. Sauf que là, je revenais à la jeunesse de mon métier, qui est quand j'ai commencé à travailler, j'étais moi face à mon plan de travail avec mes produits. Donc du coup, c'était un mélange jubilatoire de te dire, j'ai 20 ans de moins, j'ai 18 ans, je suis dans ma cuisine et je fais à manger. Et à la fois, une pression terrible parce que tu te dis, voilà, il faut faire manger des grands chefs, des confrères. Et surtout, il faut que ça envoie parce qu'il faut montrer ce que tu sais faire et qui tu es, quoi.
Et à en croire son compère d'aventure Jean-François Piège, un chef doit s'habituer lui aussi à être jugé.
Alors on est jugé tous les jours dans nos restaurants, donc ça c'est un métier où le jugement est quand même assez, j'allais dire assez présent, que ce soit par les guides, par les clients. Donc on est jugé quotidiennement. D'être jugé dans un concours qui est télévisuel, ça c'est un risque. C'est vrai qu'il y a eu, c'était un risque, mais c'est peut-être pour ça qu'il y a de l'intérêt pour ce programme.
Le duel Piège-Lignac à Naples, c'est pour le 12 décembre et tout porte à croire que d'autres numéros devraient suivre, peut-être d'ailleurs avec d'autres chefs, pour affronter Cyril Lignac.
Et Jean-François Piège. Et Cyril Lignac, qui sera notre invité le 12 décembre, voilà. Dans Culture Média. C'est la finale de Danse avec les stars demain sur TF1. Mais Cyril, vous vouliez nous parler ce matin d'une lettre adressée par une association à la chaîne, ainsi qu'à plusieurs membres du gouvernement.
L'Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques a interpellé Gilles Pélisson, le patron de TF1. La raison, une séquence de Danse avec les stars, diffusée le 2 novembre dernier. On y voyait deux candidats en train de danser dans une cellule capitonnée. Une scène stigmatisante, estime l'association. Écoutez ce qu'en dit Marie-Jeanne Richard, la présidente de l'UNAFAM. Elle est interrogée par Alexandre Omar.
TF1 aurait dû s'en rendre compte, mais ils ne se rendent pas compte parce que ça correspond aux préjugés que nous avons tous par rapport à la folie. Par exemple, le fait qu'il y ait du sang sur la blouse de l'infirmière, c'est complètement mais aberrant. Il n'y a jamais de sang dans un hôpital psychiatrique. Il n'y a pas de, il y a pas d'opération, il n'y a pas de... Donc c'est uniquement une représentation pour faire peur, en fait. Et ça, ça alimente les préjugés.
Nous avons demandé à l'association ce qu'elle attend maintenant de TF1.
Ce que l'on a demandé, c'est qu'il y ait des excuses publiques qui soient faites auprès des personnes, parce que ce sont vraiment des personnes qui sont concernées. Et puis nous avons déposé une plainte auprès du procureur de la République et on aimerait qu'il profite de cette occasion-là pour mettre en place un vrai débat sur les représentations des personnes qui vivent avec des troubles psychiques et qu'il mette vraiment en débat cette représentation dans les médias, dans le monde de la culture.
Pour l'heure, la lettre de l'UNAFAM est restée sans réponse.
La photo en une de Paris Match est saisissante, bras dessus, une enquête inédite à lire dans le nouveau Match.
Le samouraï et l'immortel Alain Delon et Jackie Humbert, l'acteur et la figure de la pègre marseillaise. Une amitié qui aura duré un demi-siècle. Match s'est procuré la correspondance que se sont échangés les deux hommes alors que Jackie Humbert était enfermé dans la prison de Luynes. Mais cette amitié était terminée, les deux hommes ne s'étaient fâchés il y a 5 ans et Alain Delon n'était pas aux obsèques de Jackie Humbert qui se sont déroulées dans le sud de la France. Une enquête, vous l'avez dit, à lire aujourd'hui dans Paris Match.
Cyril, on va terminer ce jour avec un retour.
Si, les mamans calmes, c'est facile à reconnaître, c'est celles qui ne crient pas et qui ne courent pas devant l'école. Putain, mais moi, c'est mes deux grands piliers d'éducation, crier, courir.
Vous avez reconnu la voix de Florence Foresti. Et c'est une bonne nouvelle pour Canal+. Le Parisien révèle que l'humoriste sera de nouveau la maîtresse des cérémonies des Césars. Un retour 4 ans après avoir déjà brillamment rempli cette délicate fonction. Et on va le dire franchement, on a hâte. Rendez-vous le 20 février sur Canal+, pour la 45e édition des Césars.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. Et vous, on vous retrouve lundi. Césars.
À suivre l'infomédia du jour. C'est vrai, il se la pète vraiment. L'infomédia du jour. Avec une question, les journalistes sont-ils vraiment détestés? On en parle, Philippe Vandel, avec vos invités. C'est dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Et dans cette info média du jour, on va tenter de comprendre pourquoi l'image des journalistes s'est à ce point dégradée, avec un terme qui revient souvent, détesté, au comptoir d'un café, dans une manif, dans un taxi ou sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se dit sur ce métier? Des horreurs. Les journalistes seraient des menteurs à la solde du pouvoir, censurés par leur patron. Ils disent tous la même chose et ne sont attirés que par l'audience. Et encore, je vous épargne les insultes. Détesté, c'est justement le titre d'un documentaire piloté par l'ESJ, l'école supérieure de journalisme de Lille, à la société de production Tournée s'il vous plaît. Il s'agit en fait de 6 modules, 6 portraits de jeunes journalistes qui racontent leur quotidien dans des médias très différents qui seront diffusés dans des classes de lycée. L'ambition, c'est de montrer à ce public d'ados parfois mal informés l'envers du décor et d'essayer de casser certains clichés sur la profession. Et on le sait, il y a du boulot. Justement, je reçois Joséphine Dutheuil. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous avez 24 ans, pardon, et vous êtes la réalisatrice de ce documentaire. Et côté de vous, Jules Giraudat. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 31 ans et vous êtes journaliste au sein de l'association Forbidden Stories qui a pour mission de poursuivre les enquêtes des journalistes emprisonnés ou tués. On va revenir sur le sujet. Première question à Joséphine, comment est né ce doc?
Moi, quand je suis arrivée à l'école de journalisme, c'était il n'y a pas si longtemps, en fait, il y a quelques années, j'étais très déstabilisée parce que le premier discours qu'on nous a tenu, c'était quasiment un discours d'excuse, en fait. C'est-à-dire que les gens qui nous recevaient nous disaient « On est désolé, vous héritez d'une situation en termes de défiance qui est vraiment différente de ce que nous on a connu et vous allez commencer avec un rapport extrêmement dégradé au public. » Et je ne vous dis pas ça pour être dans le pathos, mais simplement ça veut dire que pour ces dernières générations de jeunes journalistes et pour la mienne, c'est un questionnement qui est permanent.
Ça c'est le constat. Comment est né le documentaire?
Le documentaire, c'était une idée de l'école de journalisme de Lille à la base qui disait « On veut montrer ce qu'est cette dernière génération de journalistes aux jeunes en leur parlant d'une manière qui les touche peut-être un peu plus. Et on veut incarner ça de manière moderne avec une liberté de ton, c'est-à-dire en parlant aussi de ce qui ne fonctionne pas.
Alors vous avez suivi 6 profils, dont Jules qui est à vos côtés. On va commencer par le commencement. En ce moment, il est quasiment impossible de parler de la défiance envers la presse sans évoquer le mouvement des Gilets jaunes. Vous avez suivi Guillaume Bertrand de BFM TV, la chaîne détestée par les manifestants. Extrait.
Les gilets jaunes lambda, entre guillemets, non, ils parlent pas à BFM TV, c'est certain. Bah, ça m'embête parce que c'est mon rôle de donner la parole à tout le monde. J'interviewe des gendarmes mobiles, des CRS et des gilets jaunes. Le problème, c'est que la parole des gilets jaunes, du coup, elle est inaudible sur notre chaîne. Inaudible.
C'est plus de la violence, c'est de la violence, de la rage. Comment vous l'expliquez? D'abord, vous avez eu des difficultés à tourner à ses côtés? Parce qu'on le voit, on voit un truc absolument dingue. Quand il fait un direct sur BFM TV, il fait croire qu'il est en ligne avec quelqu'un sur son téléphone portable sans dire qu'il est en direct et qu'il y a un million de personnes qui le regardent. C'était difficile de tourner ces séquences?
C'était un petit peu compliqué. Nous, une chose qui nous sauvait avec mon caméraman, c'est simplement qu'on avait un matériel qui est différent. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on était déjà peut-être au 10e acte des Gilets jaunes. Ouais. Donc il y avait des automatismes chez certains militants. Ils savent repérer les équipes de news, de télé. Donc ils reconnaissent les caméras, ils savent dire ça c'est plutôt BFM, ça c'est plutôt d'autres journalistes qui travaillent pas pour ces chaînes. Nous on avait des appareils photo pour filmer, ouais. Donc ils disaient vous c'est pas pareil. Nous on n'était pas des proies. Malgré tout, des insultes on s'en est pris effectivement.
Jules Giroda, vous êtes journaliste, je l'ai dit à Forbidden Stories, c'est pas exactement un média, plutôt une association. En quoi consiste ce métier de journaliste pour vous?
Forbidden Stories c'est un réseau international de journalistes d'investigation dont le travail est de continuer les enquêtes de journalistes qui ont été censurés, menacés, condamnés à l'exil, arrêtés ou assassinés, parce qu'ils enquêtaient sur des sujets qui dérangent. Ça peut être le trafic de drogue, la corruption, le blanchiment d'argent ou des scandales environnementaux. Donc on se réunit à 45 journalistes de différentes nationalités. On reprend le travail de ce journaliste ou cette journaliste. On partage nos informations et le but, c'est au bout de 6 mois, publier tous au même moment son enquête et de faire le plus de bruit possible. L'idée, c'est d'envoyer un signal aux ennemis de la liberté de la presse, c'est vous avez tué le messager, vous ne tuerez pas le message.
Dans le doc, on vous voit en train d'enquêter sur la mafia du sable en Inde. J'ignorais qu'il existait une mafia du sable en Inde, mais enfin, il y a un type qui l'ignorait pas, il en est mort, c'est un journaliste, donc vous avez repris son enquête.
Absolument, il y a ces 5 dernières années, 4 journalistes ont été assassinés parce qu'ils enquêtaient sur l'extraction illégale de sable en Inde. C'est un enjeu environnemental majeur, le sable, c'est la deuxième ressource la plus utilisée après l'eau. Et ce journaliste, Jagendra Singh, a été brûlé. Des policiers lui ont mis le feu, tout simplement, parce qu'il dérangeait les intérêts d'un ministre local.
Qu'est-ce que c'est devenu, cette enquête? Elle est sortie? Est-ce que, du coup, ça a annihilé les tentatives de déstabilisation? Quoique le mot est très faible, déstabilisation, quand il y a 4 morts.
Cette enquête, elle a été publiée en juin, dans 30 médias à travers le monde. Et l'idée, c'est de parler de ce sujet qui était un sujet local, dont peu de personnes s'y intéressaient. Et là, aujourd'hui, elle est dans 30 médias à travers le monde.
D'un mot, Joséphine, qu'est-ce que vous vouliez montrer en filmant le travail de Jules? Parce que c'est quand même différent de la haine suscitée en France. Là, on n'est plus dans la haine, on est dans la mort.
Absolument. Mais en fait, l'idée de cette série, c'était d'avoir des facettes très différentes de ces phénomènes de haine, de défiance, de détestation des journalistes. Moi, je pense que, sachant que c'est la destination d'un jeune public, ça permettait, même si c'est dramatique et c'est une réalité très lourde à exposer, de poser certains repères, à savoir que 80 journalistes par an sont tués en moyenne à cause de leur travail.
Et ce chiffre ne baisse pas depuis les années. Vous restez avec nous, on va continuer à parler de l'image du journalisme en France et dans le monde.
Oui, et vous pouvez également réagir sur Twitter via notre compte @E1CultureMédia, tout accroché. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle ce matin dans l'infomédia du jour de l'image des journalistes qui s'est considérablement dégradée ces dernières années avec nos invités. Jules Giroda, journaliste au sein de l'association Forbidden Story. On parle également d'un documentaire détesté dont nous recevons également la réalisatrice Joséphine Dutheuil.
Un documentaire en plusieurs parties. Joséphine Dutheuil, je voudrais qu'on écoute Majid, que vous avez suivi, qui raconte comment il a du mal à convaincre ses amis dans son quartier.
Mes potes d'enfance, ils sont plutôt critiques. Ils aiment beaucoup ce que moi je fais. Alors ils sont pas critiques de mon taf à moi, mais des journalistes en général en prennent pour leur grade. Parce qu'ils disent que les médias mentent. J'essaie de défendre, mais c'est pas simple. Il y en a qui aiment pas France Télévisions parce qu'ils sont persuadés que c'est une télé d'État, qui pensent que c'est télé Macron, alors que c'est faux.
Majid Kiad, qui a 25 ans, qui est reporter à France Info, qui est originaire d'un quartier de Lyon, Gerland, qui est confronté à la défiance de ses amis de la cité vis-à-vis des médias traditionnels. Pourquoi y a-t-il, selon vous, une telle image dégradée dans les quartiers?
Je pense qu'il vous répondrait bien mieux que moi, parce que c'est quelque chose auquel il est confronté tous les jours et il fait une sorte de grand écart dans sa vie entre son travail et ses cercles d'amis. Mais lui, ce qu'il m'explique en tout cas, c'est que d'après lui, il y a eu par le passé, un traitement peut-être, parfois, médiatique, qui a été caricatural, un peu rapide, un peu... Ce que ses amis lui disent parfois, c'est quand les journalistes viennent, on a l'impression qu'ils viennent aux eaux. Ouais. Donc ça nous dérange. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de régler ça, puisque l'agressivité, il y a une agressivité qui fait qu'il n'y a pas de communication possible.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème insoluble pour les banlieues? C'est qu'évidemment que les équipes de télé viennent filmer quand il y a des voitures qui brûlent, et on ne filme pas une voiture qui ne brûle pas.
Absolument.
Et c'est impossible de faire on ne fait pas des reportages sur les trains qui arrivent à l'heure. Comment sortir de ce hiatus?
Encore une fois, je pense qu'il connaît la question bien mieux que moi, mais il y a aussi des choses qui se passent dans les banlieues qui sont autre chose que des émeutes, tout simplement.
Jules Giraudas, est-ce qu'on peut dire encore que vous êtes jeune à l'âge que vous avez?
J'espère, oui.
Est-ce que le dialogue avec les jeunes est possible, impossible? Est-ce qu'il est rompu? Comment est-ce qu'on peut faire passer ce message que le journalisme est un des piliers, un des fondements de la démocratie?
Moi, je pense qu'une solution, c'est de donner les moyens aux journalistes de bien faire leur travail, de produire une information de qualité. L'investigation, par exemple, ça demande du temps. On ne sort pas l'affaire Cahuzac du jour au lendemain. C'est un mois, deux mois, trois mois, parfois six mois d'enquête.
Je vous interromps tout de suite. On retombe sur un second hiatus. Avec la presse gratuite, la presse a de moins en moins d'argent. Tout le monde le sait. Les journaux, les radios, les télés, tout le monde, chacun a de moins en moins d'argent pour travailler.
C'est vrai, mais il y a des exemples comme Mediapart qui montrent que ça marche.
Il y en a un. En Europe.
Oui, mais ça montre que si on investit dans l'investigation, on peut produire de l'information de qualité. Et aujourd'hui, les personnes sont prêtes à s'abonner pour ça.
Ouais, mais malheureusement, c'est un exemple unique. Il y a également les nouveaux médias, puisque vous en parlez. Vous avez suivi Aude Favre, elle a 31 ans. Elle a monté une chaîne contre les fake news sur YouTube. Et vous la montrez harcelée par des commentaires qui sont postés après la mise en ligne de ses vidéos. On écoute Aude Favre.
Ça va souvent un peu loin quand même. Donc il faut avoir les épaules un peu solides, ou alors il ne faut pas regarder tes commentaires. Mais même si tu ne les regardes pas, tu peux toujours compter sur un bon pote pour dire « Oh, ça va, j'ai vu tes derniers commentaires. » Écoute, merci, ça va aller. Je vais juste pas regarder, hein, ne me dis pas ce qui s'est dit. Quand tu es sur YouTube, tu es exposé à fond. Hein. Mais moi, je ne construis pas mon personnage, parce que mon personnage, c'est moi.
Je vous vois hocher la tête, Joséphine.
Ouais, ce qu'il faut bien dire là, c'est qu'elle ne parle pas de 2-3 commentaires. On parle de quelque chose de massif, très violent et constant. C'est-à-dire que dans le cas de Aude, après certaines vidéos notamment, et parce que ces derniers mois, par exemple, elle s'est attaquée à des chaînes YouTube extrêmement populaires et dont elle dénonçait certaines dérives.
Quelles dérives, par exemple ?
Des faux concours frauduleux, par exemple, mais aussi simplement versés dans le complotisme.
Ouais.
Et ça paraît presque rien parce que ce n'était pas des sujets dramatiques, mais en fait, ça a un impact sur les jeunes extrêmement fort.
Ouais.
C'est en partie pour ça d'ailleurs qu'on a traité son portrait. Donc en fait, dans ces cas-là, c'est des armées de trolls qui se déchaînent sur tous les comptes, sur le Twitter, le YouTube, etc. Et on parle de centaines de commentaires par jour.
C'est aller jusqu'au point de la faire abandonner? Est-ce qu'elle songe à abandonner?
Absolument pas. Justement, je pense que ça l'a renforcée dans son idée.
Les réseaux sociaux, c'est une vraie menace pour la presse parce que la violence s'exprime sans filtre, selon vous? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont que des mots? Comment vous voyez ça tous les deux? Bon, merci pour cette réponse. J'ai l'impression que j'ai posé une question très difficile. Joséphine Dutheil, à la fin de chaque module, vous précisez le salaire, la nature du contrat de chaque journaliste. Là encore, c'est pour cacher les clichés sur les journalistes prétendument trop payés?
Oui, je pense que ça, c'est assez utile de remettre certains repères hein, sur ce qu'on gagne réellement.
Ah oui?
Ouais, je pense que
c'est
oui.
Vrai.
Je pense que oui, parce que si on prend les questions qui dérangent les clichés sur les journalistes sont très riches, ça en fait partie.
Ouais.
Donc là, par exemple, vous voyez, j'en ai plusieurs qui gagnent 1600 net par mois, c'est pas forcément ce qu'on imagine. Ouais. Au-delà de ça,
mais
une deuxième raison,
ouais, allez-y.
C'est que c'est quand même à destination des ados à l'origine, et il y a une toute petite, c'est la minute un peu ONICEP, conseiller d'orientation, ça leur permet de se projeter dans cette carrière et de se rendre compte de ce que ça représente concrètement.
Mais avant l'émission, vous êtes venu me dire, ne nous demandez pas combien on gagne. Donc c'est une question, vous dites il faut donner ou il ne faut pas donner?
Ah non, il n'y a pas de souci, je peux vous dire combien je gagne, il n'y a pas de
non,
problème.
Non, mais pour Jules, il ne fallait pas lui demander combien il gagne.
Ah non, il n'y a aucun souci, je peux vous dire combien je gagne.
Ah
je
bon
pense que c'est...
Oui, oui, bah alors pourquoi vous êtes venu me voir tous les deux en me disant pas de questions sur l'argent?
Il n'y a aucun problème à parler d'argent, et je pense que c'est même une bonne chose, pour une simple et bonne raison, c'est que aujourd'hui, les jeunes étudiants ne vont pas forcément faire du journalisme. Ils pensent que c'est mal payé et ils n'ont pas forcément tort. Parce qu'aujourd'hui, on demande de faire de plus en plus d'études, de sortir de Sciences Po, de grandes écoles de journalisme. C'est 7 ou 8 ans d'études, c'est faire des stages, c'est payer pour faire des stages. Et au final, on est beaucoup moins payé qu'un serveur quand on commence.
Juste une question, tous ces modules, ces petits films, on peut les voir? Où peut-on les voir? Pour qui voudrait les voir et même les chaînes les diffuser?
Voilà, depuis ce matin, 9h, ils sont sur la chaîne YouTube de l'ESJ, l'École supérieure de journalisme de Lille. Et vous pouvez non seulement les voir, mais les utiliser, puisque maintenant qu'on a fait la projection, c'est parti, ouais. On lance tout ça. Et c'est à destination de tout le monde et même on invite les médias ou les associations à les utiliser.
À les
reprendre. Soit en les téléchargeant tout simplement sur la page, soit en faisant appel à la société de production ou à l'école.
Et c'est libre de droit. Merci beaucoup. Merci Joséphine Dutheuil. Vous êtes la réalisatrice de ce doc intitulé « Détesté » et merci à Jules Giraudat, un des personnages du documentaire et journaliste à Forbidden Stories. Merci de votre présence ici en direct.
M6 se mobilise tout ce week-end contre les violences conjugales, ce fléau qui tue. On en parle avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et on parle, Philippe Vandel, dans Culture Média, de la mobilisation d'M6 contre les violences conjugales.
Bonjour Delphine Lopez.
Bonjour.
Vous êtes la réalisatrice d'un document exceptionnel qui passe dimanche soir sur M6 dans l'émission Enquête Exclusive autour de l'affaire Bertrand Cantat. À côté de vous, Jonathan Curiel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général adjoint des programmes de M6, c'est ça, chargé des magazines et des documentaires. Il y a tout le temps des titres à rallonge maintenant dans la télé. Et M6 a décidé de se mobiliser contre les violences faites aux femmes. Le Grenelle des violences conjugales va se terminer lundi 25 et toute cette semaine, vous avez consacré une grande part de votre antenne à cette cause, notamment dimanche sur M6, puis durant toute la semaine sur Teva. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Delphine Lopez. Vous avez réalisé Affaire Bertrand Cantat, le document inédit. Ce sera à 23h10 dimanche dans Enquête Exclusive. Vous racontez la mort de Marie Trintignant à Vilnius sous les coups de Bertrand Cantat, mais également le procès, les suites, le suicide de son ex, Christina Radi. Vous avez retrouvé des témoins qui n'avaient jamais parlé. Et surtout, vous avez un document, ça commence très fort, puisqu'on voit Bertrand Cantat à Vilnius, dans les bureaux du palais de justice face à la juge, en train de raconter la nuit tragique, terrible qui vient de s'écouler. Comment vous êtes-vous procuré ce document ?
Alors c'est un document, déjà, c'est ce document, donc cette audition, c'est le producteur qui s'est rappelé à un moment donné, quand on a décidé de faire ce document, que dans Paris Match, le verbatim de cette audition avait été publié, y compris des captures d'écran. Donc il a essayé de remonter la piste et il a retrouvé un journaliste, producteur, qui avait diffusé quelques extraits en Lituanie il y a quelques années de ça et qui était passé totalement inaperçu.
C'est totalement impressionnant, c'est en français évidemment, il parle avec une traductrice à côté de lui, Bertrand Cantat, il est assis derrière un bureau complètement hagard et on le voit, déjà à la radio c'est impressionnant, mais alors en télévision c'est très très fort, on le voit en train de mimer les gestes des gifles qu'il a mises à Marie Trintignant, extrait.
Je suis rentré dans une colère noire et à partir de là, moi je lui ai mis des claques et pas des petites baffes, je peux pas mentir. C'est des grandes baffes, j'avais des bagues à mes doigts et c'est parti comme on lâche une... C'est parti tout comme ça. La vérité du moment, c'est ça.
Pouvez-vous montrer comment vous avez donné ces quatre claques ?
Très, 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 des grandes lâchées comme ça. Quatre ou cinq ou six. Des grandes comme ça. Très fort.
Fort, dit Bertrand Cantat, et il mime avec de très grands gestes du bras. En réalité, vous montrez qu'il ment, il reconnaît quatre coups, quatre grosses baffes, comme il dit, mais vous êtes procuré un document exclusif à ma connaissance, le rapport d'autopsie de Marie Trintignant. Que dit ce rapport ?
Alors ce rapport montre qu'en fait, Marie Trintignant avait des coups, enfin plusieurs coups, une dizaine, pas uniquement sur le visage, c'est sur le corps également, que c'est... En fait, qu'elle a été victime du syndrome du bébé secoué. Ses nerfs optiques ont été brisés et elle avait le nez également écrasé.
Ouais, donc ça ne peut absolument pas être quatre grosses baffes. Autre partie de l'interrogatoire de Bertrand Cantat, il est en larmes, il est complètement effondré. Il vient de réaliser, parce qu'au départ, elle était entre la vie et la mort. Là, à ce moment-là, il sait qu'elle est morte. C'est un document, je précise, le son n'est pas très bon, mais la charge émotionnelle est énorme.
J'ai la culpabilité profonde d'avoir tué la personne sur laquelle je suis incapable de vivre. Voilà exactement ce que je suis en train de vivre. Chaque seconde de ma cheville, chaque seconde, je lutte pour ne pas la rejoindre, pour ne pas, si on peut dire la rejoindre, ce serait tellement long si j'en étais sûr, j'irais immédiatement. Chaque seconde, le cœur profond, il proclame, il est là. C'est qu'on s'est mis comme des fous, des fois, je lui disais, on s'aime trop. Elle me répondait toujours, ça ne peut pas être trop, on s'aime jamais trop.
qu'on s'aime trop, disait Bertrand Cantat. Et ce qui est dingue, c'est que cette défense a réussi à émouvoir les jurés. Il aurait pu prendre 15 ans de prison. Le résultat, ce fut...
C'est 8. Et en fait, il a été libéré à mi-peine.
Le plus fou, son ex-compagne Christina Radi est venue témoigner en sa faveur au procès, alors que dans votre enquête, vous montrez que Marie Trintignant n'est pas la première victime sur laquelle Bertrand Cantat a porté des coups, son ex-femme également, et pour la première fois, ses parents ont brisé le silence. Vous avez réussi à les faire parler.
Oui, exactement. On a mis du temps. Finalement, ils nous ont reçus et dans leur maison secondaire au bord du lac Balaton. Ça a été... Le papa n'a pas souhaité nous parler. C'est la maman qui s'exprime pour la première fois et elle nous explique qu'effectivement, Bertrand Cantat, elle nous raconte une scène où Bertrand Cantat s'auto-mutilait devant les enfants et jouait un chantage affectif vis-à-vis de Christina Radi pour qu'elle reste avec lui.
Et justement, elle cédait puisque ses enfants étaient là.
Oui, en fait, Christina Radi, elle a toujours protégé Bertrand Cantat, elle a toujours voulu protéger ses enfants et elle aurait demandé à son entourage, aux membres du groupe, y compris à sa famille, de se taire sur d'éventuelles violences qu'elle aurait subies.
Et ça va même plus loin puisque Christina Radi, finalement, s'est suicidée. On en parle juste après ça. On va également parler de l'opération du groupe M6 pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Oui, et c'est ce week-end que le groupe M6 mobilise ses magazines pour se pencher sur la violence conjugale. On continue à en parler avec vos invités, Philippe, dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dispositif éditorial exceptionnel ce week-end sur M6 qui mobilise ses magazines pour parler des violences conjugales. Vous nous en parlez, Philippe, avec vos invités. Jonathan Curiel, directeur adjoint des programmes du groupe M6, et Delphine Lopez, réalisatrice du documentaire Affaire Bertrand Cantat, l'audition, diffusé dimanche dans Enquête Exclusive.
Delphine Lopez, j'imagine que vous avez évidemment essayé de contacter Bertrand Cantat.
Oui, on a essayé de le contacter, bien sûr, parce que, bien évidemment, on voulait avoir... sa version.
D'autant qu'il est libre, il faut le dire, il est en liberté. Oui, il a même été sorti de prison plus tôt et vous avez même réussi à faire parler le juge d'application des peines. Qui a réduit sa peine en France. Et donc, impossible, vous avez vu l'avocat.
J'ai rencontré l'avocat, j'ai passé du temps avec son avocat pendant une heure, on a discuté et il m'a proposé, il m'a dit je vais essayer de demander à mon client de parler, mais je ne vous garantis rien. Bon, après, il a refusé, mais on a essayé évidemment de le contacter.
Et vous allez plus loin, vous dites qu'une omerta s'est organisée pour dissimuler le vrai visage de Bertrand Cantat, notamment ses proches, les ex-membres du groupe. Il y a vraiment une chape de plomb, de silence faite autour de lui.
Oui, et d'ailleurs j'ai essayé de contacter les proches, enfin en tout cas les membres du groupe. Certains m'ont répondu au téléphone, puis d'autres m'ont envoyé balader. Ils n'ont plus du tout envie d'en parler. Et effectivement... une omerta aurait existé. En tout cas, Christina Radi aurait demandé aux membres du groupe de se taire.
Il faut bien expliquer pourquoi elle l'a fait, parce qu'elle-même était victime de Cantat. C'est pour protéger les enfants. Il lui a fait vivre un enfer, alors qu'ils n'étaient plus en couple, mais qu'ils habitaient ensemble. C'est ça, vous montrez l'enfer qu'elle vivait au quotidien. Il la suivait, des choses affreuses.
Oui, et puis c'est ce qu'elle raconte d'ailleurs dans son message qu'elle a laissé avant de se suicider. C'est sur le message, sur le répondeur qu'elle adresse à ses parents. Elle parle de cartilage cassé. Elle parle elle a l'air d'être effrayée par cet homme.
Ça s'est terminé de cette façon-là. Elle s'est suicidée dans la maison avec lui qui dormait dans la pièce à côté. La question que tout le monde se pose, comment vont les enfants du couple avec la maman qui s'est pendue et le papa qui a tué une femme de ses propres mains? Comment vont-ils? Où sont-ils? Est-ce que vous le savez?
Non, je ne sais pas. Non. Non, j'ai pas, non, j'ai pas souhaité. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas contacté les enfants. Je pense qu'il faut les laisser tranquilles.
Ah, ça, je suis d'accord avec vous, il faut les laisser tranquilles. Juste savoir si c'était catastrophique ou très catastrophique. Jonathan Curiel, vous êtes directeur général adjoint des programmes d'M6. Vous êtes chargé des magazines documentaires. Est-ce que vous pouvez nous détailler le reste du dispositif d'M6, cette mobilisation contre les violences faites aux femmes? D'abord, pourquoi? Parce qu'on dit que M6, c'est une chaîne qui s'adresse traditionnellement aux femmes. Et puis, vous avez aussi Teva, qui est une chaîne de la TNT centrée sur le public féminin, mais pas seulement, mais quand même. Pourquoi cette mobilisation du groupe?
Parce que déjà, on considère que le rôle de la télévision et des médias, aujourd'hui en général, c'est de porter du sens et de se mobiliser pour un certain nombre de causes. La violence faite contre les femmes en particulier, parce que donc M6 veut se mobiliser et parce que M6 est écouté et vu par plus de 60% de femmes. Donc on estime que c'est une thématique qui peut avoir une résonance à la fois pour nous et pour notre public, pour aider à la sensibilisation, à la prévention. Donc c'est effectivement une cause sur laquelle on se mobilise de manière assez importante dans le groupe, avec effectivement Teva toute la semaine, vous l'avez rappelé, des documentaires très forts. On a organisé une conférence de presse qui était très 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 émouvante avec beaucoup de témoins il y a deux semaines chez M6. Dispositif Teva, dispositif M6 avec un zone interdite très 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 fort dimanche soir. Le documentaire derrière d'enquête exclusive de Delphine sur Bertrand Cantat, qui est justement entouré, qui est diffusé dans un écran particulier. Il n'est pas diffusé n'importe comment, il est diffusé la veille de la fin du Grenelle, dans le cadre d'une grande mobilisation. Donc on a fait attention aussi à ce qu'il y ait quand même du sens dans toutes nos diffusions.
Et également qu'il soit diffusé tard, parce que parfois ça peut heurter.
Absolument, absolument. C'est de la deuxième partie de soirée, c'est pas de la première partie de soirée. Tout ça est volontaire et porteur de sens. Et
66 minutes également, présenté par Xavier Demoulin à 17h20, qui sera aussi consacré à ce thème.
Normalement, également. Et puis, les journaux télévisés toute la semaine sur M6, 19h45, 12h45, et également RTL qui s'est mobilisé sur cette thématique qui nous est chère.
RTL, j'ai jamais entendu ce nom-là. Grosse programmation également sur Teva. Lundi, un film, Arrête-moi. Je connais pas ce film, autant vous le dire.
Bon, bah vous allez le découvrir, mais en tout cas, l'idée vraiment, c'est de à la fois donc Teva, qui est la chaîne des femmes vraiment qui se mobilisent toute la semaine. Il y a notamment un documentaire sur intitulé Numéro 30, qui est la jeune femme, Julie Douib, qui a été assassinée, dont on a reçu le papa chez M6, qui est extrêmement poignant. 30e victime qui était également à l'origine de l'organisation de ce Grenelle, qui se finira le 25 novembre. Ouais. Donc le lendemain de tous les efforts que le groupe M6 aura produit en la matière.
Et j'ajoute le 27 et le 28 novembre, une mini-série inédite, Le Monstre, ça sur Teva. Merci beaucoup Delphine Lopez, réalisatrice du document exceptionnel dont on a parlé aujourd'hui. Ça passera dimanche soir sur M6 dans Enquête exclusive sur l'affaire Bertrand Cantat. Et merci beaucoup Jonathan Curiel d'M6. Merci d'être venu ici en direct, pas sur RTL, sur Europe 1.
Dans un instant, on poursuit avec notre heure culture, mais juste avant, place aux digressions des rats d'auteur avec le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus.
Gilles Gaston Dreyfus, Gilles.GastonDreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Groot.
Toi, tu dis de Groot.
Une vraie question. En France, on dit de Groot.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que vous disiez, du coup?
Bah, du coup, je...
Rien. Gilles, bonjour.
Bonjour, Stéphane.
Nous sommes déjà vendredi. Oh. Toute une semaine passée en votre compagnie.
Oh, c'était un bonheur.
Nous étions sur la trottinette toute la semaine.
C'était génial. Ce qui va ressortir de ça, c'est
je sais pas s'il va ressortir quelque chose de ça.
On a discuté de la trottinette.
En train de se supprimer dans certains pays.
Pouvez-vous me préciser ce que vous venez de dire?
On supprimait quelques opérateurs.
Quelques opérateurs.
J'ai dit opérateurs?
Oui, opérateurs.
Moi, j'aime bien Michel Thor.
C'est une femme?
Michel Thor?
Oui.
Gilles, franchement.
Je pensais que c'était une femme, Michel Thor.
Ben, c'est une femme, Michel Thor.
Ben oui, c'est ça. Pourquoi?
Mais vous connaissez pas Michel Thor?
Mais si.
Mais non, mais si vous me demandez si c'est une femme.
Il y a un homme qui s'appelle Michel Thor, mais il n'est pas artiste.
Il fait quoi?
Il est commerçant dans le Doubs.
Très bizarre, hein, définitivement. Vous connaissez ces chanteurs?
Pas toute la variété française.
Je vous demande pas de citer toute la variété française. Un morceau de Michel Sardou.
Paris brûle-t-il?
Paris brûle-t-il?
Non, mais je me souviens des voix, moi. Des tons, des notes, des.
Une chanson de Hadjani.
Il y en a plein.
Ben, l'autre.
Eh ben, je.
Ok, Jean Ferrat.
Il y en a plein.
Vous ne connaissez rien, en fait, à la chanson française.
Mais si! Mais vous, citez-moi une chanson de
qui?
Balavoine.
La Ziza.
Ah oui, la Ziza, d'accord.
Vous voulez une autre? Donnez-moi une chanson de Sylvie Vartan.
Non, Johnny.
Bah alors, une chanson de Johnny.
Mais.
Ok, France Gall.
France Gall, tiens, voilà des bonbons.
C'est Gainsbourg qui écrit cette chanson. Vous voyez qui c'est, Serge Gainsbourg ou pas?
Non, oui, bah oui, bah, ils ont mis une plaque de naissance.
Vous êtes vraiment un escroc, en fait. Les Beatles, une chanson des Beatles.
Bah les Beatles, c'est un groupe de musique.
Je vous demande le nom d'une chanson. En fait, ça fait un quart d'heure qu'on parle de ça. Il n'y a pas un nom de chanson qui sort. Un chanteur, Francis Cabrel.
Bah, Francis Cabrel. C'est fou qui me dites Francis Cabrel.
Mais pour vous aider,
ouais, Michel Amon.
Michel Amon. Alors on salue Marcel Amon, mais Michel Amon. Mais je ne sais pas que c'était à ce point-là.
Mais quel est l'intérêt
de... C'est un minimum de culture.
Mais moi je connais leur voix quand ils chantent.
Quand ils chantent, quand ils chantent. Qui a chanté cette chanson?
Les noms, je ne m'en souviens pas.
C'est Nana Mouskouri.
Quand ils chantent et quand ils chantent.
Oui, qui est Nana Mouskouri.
Bien sûr, elle est grecque.
Ça va bien nous aider. Ça n'avait pas cité un chanteur, pas une chanson, rien. Je vous dis au revoir.
Au revoir, Stéphane.
Je vous dis à lundi.
À lundi, Stéphane. Reposez-vous
bien. Oui, à lundi.
C'était les rats d'auteur avec Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus, feuilleton quotidien que vous retrouverez dès lundi à 9h55 et en podcast sur europe1.fr.
Europe 1, Culture Média.
Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec le chanteur Julien Clerc. Son nouvel album sort aujourd'hui, sobrement intitulé Duo. Ses plus grands succès, dans des versions inédites avec un casting d'exception, entre autres Carla Bruni, Francis Cabrel, Calogero, Maxime Le Forestier, Florent Pagny et sa fille Vanille et d'autres que je n'ai pas cités. Puis dans les indispensables, un anniversaire aujourd'hui, les 35 ans de Dragon Ball Z. On va se replonger dans l'univers de ce manga au succès planétaire avec Clément Le Saffre, qui n'était pas né quand ça a démarré. Et puis on va parler d'amour avec une expo au Palais de la Découverte. Louise Bernard s'y est rendue pour tenter de décrypter ce sentiment universel d'un point de vue scientifique et même sans aucune science autour. L'amour, je pense qu'elle a dû faire des découvertes.